Mondial Sport sur RFI. Cédric De Oliveira.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Veillée d'armes à la Coupe d'Afrique des Nations avant les demi-finales de la compétition. Le Sénégal d'Idrissa Gana Gueye affronte la Tunisie d'Alain Giresse. Deux hommes qui se connaissent bien et qu'on entendra avant ce rendez-vous qui s'annonce palpitant. Et puis on parlera de l'autre demi-finale, Algérie-Nigeria. Rencontre notamment avec Alex Iwobi, l'un des hommes forts des Super Eagles. On rejoindra également la route du Tour de France cycliste en fin d'émission avec, vous l'entendrez, des coureurs français en grande forme. Mondial Sport, c'est parti. Et avec moi en studio pour parler de la CAN notamment, Martin Guez. Bonsoir Martin.
Bonsoir Cédric, bien rentré d'Égypte.
Oui, bien rentré, effectivement, les quelques jours. Et cette CAN, justement, les demi-finales, elles auront lieu demain. Algérie, Nigeria et Sénégal, Tunisie. Mais d'abord, retour une dernière fois sur Madagascar. L'épopée des Bareas s'est terminée jeudi en quart de finale après une défaite face à la Tunisie 3-0. Un parcours historique pour la première participation des Malgaches qui sont donc rentrés aujourd'hui en héros à Antananarive. Un accueil triomphal leur a été réservé sur place par des dizaines de milliers de supporters. Le reportage de Laetitia Bezin.
C'est une véritable marée humaine qui a envahi l'enceinte de l'aéroport et les rues aux alentours pour pouvoir apercevoir les joueurs de l'équipe nationale malgache. Au passage du bus des Bareas, c'est l'explosion de joie. Dans la foule, Harry Manan, 60 ans, tient bon.
Je suis tellement heureuse, j'ai l'impression que mon cœur ne va pas tenir. Je ne suis pas allée travailler aujourd'hui pour venir les voir. Je les ai vus un tout petit peu parce qu'il y avait trop de monde, mais c'était vraiment magique. Même s'ils ont perdu en quart, ils ont gagné le cœur des Malgaches.
Asne Mahange, 18 ans, des drapeaux malgaches dessinés sur les joues et Barea, inscrit sur le front, ont marché pendant 2 heures pour venir vivre ce moment historique.
Je suis très contente de les voir en vrai et surtout d'avoir vu Melvin. Les routes sont complètement bloquées avec la foule. J'ai marché jusqu'ici par amour pour eux.
Je suis tellement étonnée de voir cette foule immense qui s'est rassemblée ici. Je suis très heureux de voir ça, cette union du peuple. Personne n'a jamais pu réunir tous les Malgaches comme ça, à part les Bareas. Cet événement-là marquera vraiment ma jeunesse.
Le bus des Bareas poursuit sa route dans tous les quartiers de la capitale, entraînant derrière lui des milliers de personnes. Chaque coin de rue est en fête. Phare, 40 ans, est sorti avec ses 3 enfants pour voir le cortège de l'équipe.
Je suis très heureuse parce qu'ils se sont battus pour nous. Il faut toujours un perdant, mais ils se sont vraiment battus pour le pays. Je suis ravie. Ce que je voulais, c'est les voir en vrai. Et les voilà, leur visage.
Les automobilistes bloqués dans les embouteillages à cause de la foule ont eux inscrit des merci Bareas sur les vitres de leur voiture. Des remerciements que leur renvoient les joueurs de l'équipe émus devant cet accueil digne de champion de Coupe du Monde. Notamment Fan Evan Jatsim, le capitaine des Bareas et le défenseur Pascal Razakanantenaine.
On veut dire un grand merci au peuple malgache qui est derrière nous. Ça fait chaud au cœur ce que vous avez fait pour nous soutenir. Si le peuple malgache et si Madagascar restent unis comme cela, ce sera facile de développer le pays. Vive Madagascar!
Vive Madagascar!
Un immense merci parce que si on est allé jusque-là, c'est grâce à l'amour que nous ont donné le pays et les Malgaches. On a vu cela sur toutes les chaînes de télévision. On sentait que le peuple malgache était derrière nous et c'était ça notre force. Quand on est arrivé en 8e de finale, il y a 500 personnes qui sont venues avec le président et ça aussi, ça nous a beaucoup aidés. On s'est battu pour le pays, on a tout donné.
Un moment inoubliable aussi pour le coach de l'équipe, le français Nicolas Dupuis.
Merci de votre accueil, évidemment. Ça nous a apporté beaucoup de force, votre soutien. Et vraiment, on n'oubliera jamais ça, mais grâce à vous aussi, on a eu cette force pour aller le plus loin possible. On aurait aimé aller encore plus loin, mais ce sera pour la prochaine fois.
L'objectif pour cette équipe de Madagascar, continuer de briller dans les compétitions internationales. En attendant, dans la capitale, la fête va se poursuivre jusqu'au petit matin. Laetitia Bezin, Tananarive, RFI.
Voilà, Madagascar de retour à la maison. Les Bareas qui vont donc célébrer ce joli parcours encore une bonne partie de la nuit. Alors Martin, on va parler des 4 équipes qui sont toujours au Caire. et qui forment un dernier carré d'habitués sont encore en lice. L'Algérie, le Nigeria et la Tunisie, trois anciens vainqueurs de la CAN, et le Sénégal qui court donc toujours après un premier sacre.
Oui, Cédric, finaliste en 2002, les derniers lions de la compétition espèrent cette fois-ci aller au bout. Mais avant, il y a une demi-finale à jouer ce dimanche face à la Tunisie. C'est la première fois que les Sénégalais rallient le dernier carré depuis 2006. À l'époque, Idrissa Ganagay était devant sa télévision. Il est aujourd'hui l'homme à tout faire des Lions. Sentinelle à Everton, il évolue un petit peu plus haut sur le terrain en sélection, ce qui lui permet même de marquer comme il l'a fait en quart face au Bénin. À 29 ans, voilà le milieu arrivé à maturité, même s'il n'a pas oublié 2006 lorsqu'il était simple spectateur. Il est au micro de Christophe Jousset.
Ouais, je m'en souviens, j'étais à Djambar dans mon centre de formation. On avait regardé ça avec tous mes coéquipiers. On était des vrais supporters. On aurait aimé voir le Sénégal aller en finale, mais malheureusement, on s'est fait éliminer. Tout le monde était triste. Des souvenirs douloureux pour nous. Ouais.
Vous voilà maintenant, bon, de l'autre côté du poste. Vous êtes à deux matchs du titre, mais il n'y a plus que des gros bras. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez autour du Sénégal maintenant?
Du début jusqu'à la fin, notre objectif c'était de venir ici et de gagner. Après, peu importe l'équipe contre laquelle on va jouer. Surtout ne pas croire qu'on y est déjà. Il reste encore un match là avant la finale. Voilà, on essaie de continuer ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire respecter tout le monde, ne n'avoir peur de personne, et après on verra.
Vous avez fait un joli parcours. Il y a eu cette défaite quand même au premier tour contre l'Algérie. Est-ce que cette défaite, à votre avis, a fait plus de bien au Sénégal que de mal?
C'était une bonne leçon qu'on a prise ce jour-là, parce que tout le monde nous voyait comme les favoris et capables de battre n'importe quelle équipe. Et ce jour-là, on a vu que peut-être qu'on n'était pas encore prêt et qu'il fallait se remobiliser, travailler encore plus. Si on veut atteindre notre objectif, on a travaillé encore plus pour être prêt à affronter n'importe quelle équipe.
Un mot sur Alain Girès, il a été sélectionneur du Sénégal. Quel souvenir vous gardez de cette période?
De très bons souvenirs, malgré l'élimination qu'on a eue avec lui en 2015. C'est un coach qui nous a beaucoup apporté. On est toujours resté en contact malgré tout ce qui s'est passé. Donc, humainement parlant, c'est quelqu'un de bien et qui est respectueux envers ses joueurs et qui se bat pour ses joueurs. Donc après, maintenant, il est sélectionneur de la Tunisie. Il faudra parler aux joueurs de Tunisie.
Sans état d'âme.
Ouais.
Qu'est-ce que la Coupe du Monde a pu apporter au Sénégal dans la gestion que vous avez eue de cette Coupe d'Afrique des Nations?
Ça nous a permis de grandir et surtout de savoir qu'on ne gagne pas un match sans l'avoir joué. Comme on a vu que tout le monde pensait qu'on n'allait pas sur la Coupe du Monde. Mais malheureusement, on s'est fait éliminer à la dernière minute pour des histoires de carton jaune et un but qu'on a pris à la dernière minute. Donc maintenant, ça nous permet de rester concentrés du début jusqu'à la fin et de prendre des matchs après match sans se projeter sur le match prochain, parce que c'est comme ça qu'on est surpris.
Quand on regarde votre parcours à vous depuis Diambars, on en parlait tout à l'heure, bon, il y a eu Lille, ce titre de champion, et puis l'Angleterre, vous avez dépassé les 60 sélections avec les Lions. Vous êtes dans une progression constante, hein, on a l'impression.
Peu importe à quelle équipe je suis, j'essaie toujours d'apporter mon expérience et d'essayer d'apporter ma contribution à l'équipe et de faire le maximum pour aider l'équipe. Après, c'est vrai qu'avec l'équipe nationale, c'est différent parce que maintenant, je suis amené à jouer plus haut, donc ça change un peu, mais je suis content d'aider l'équipe et surtout de faire ce qu'il faut pour gagner les matchs.
Jouer juste devant la défense en club, jouer plus haut en sélection, vous êtes à l'aise dans les deux positionnements?
Oui, ça reste du football, donc ouais, je suis à l'aise parce qu'on est là pour jouer au foot et je suis là pour aider mon équipe aussi. Donc si le coach estime qu'en jouant plus haut, je suis plus utile à l'équipe, moi je suis prêt à tout faire pour les satisfaire.
Le dossier de votre transfert ressurgit, vous avez lu l'équipe comme tout le monde, ou vous en a parlé au moins. Le PSG revient sur le devant de l'actualité. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous y pensez ou bien vous êtes entièrement concentré sur la CAN?
J'ai pas lu l'équipe, mais on m'en a parlé. Je suis entièrement concentré sur ma compétition et on aura le temps d'en parler si c'est encore là.
Ça vous intéresse toujours, le PSG?
Oh, je peux pas en parler là. Comme j'ai dit, je suis concentré sur ma compétition.
Qu'est-ce que vous apporterez ce trophée là, continental, dans la suite de votre carrière?
Je peux même pas l'imaginer, je crois. Le plus important pour moi, c'est pas ce que ça va m'apporter sur la suite de ma carrière, mais plutôt ce que ça apporterait au pays, la joie que ça apporterait à tout un pays. Et c'est un objectif qu'on a depuis longtemps, donc on veut bien faire et on veut rendre ce trophée au pays.
Et avant un éventuel transfert, il reste encore deux rencontres à jouer dans cette CAN pour Ganagay, dont cette demi face à la Tunisie. Il répondait à Christophe Jousset. Christophe, qu'on retrouve un petit peu plus tard dans cette émission.
Oui, avec donc cette demi face au Sénégal, donc qui jouera face à la Tunisie, qui marquera, comme l'évoquait Idrissa Ganagay, les retrouvailles avec son ancien entraîneur Alain Giresse, un ex-sélectionneur qui n'a pas non plus oublié ses protégés de l'époque, désormais adversaires.
Et oui, des Lions sénégalais qu'Alain Giresse a dirigé de 2013 à 2015. Période pendant laquelle il a lancé certaines stars d'aujourd'hui, Idrissa Ganagay donc, mais aussi Sadio Mané, des retrouvailles qu'il ne savoure pas forcément. Le Sénégal reste une de ses équipes de cœur, même si l'histoire s'était mal terminée. Alain Giresse au micro d'Éric Mamrut et de Niassé Sambe.
C'est pas un plaisir de retrouver une équipe, des joueurs, des dirigeants avec qui on a travaillé, on a partagé des moments professionnels. Bien sûr que non, parce que tout d'un coup, je me retrouvais être un adversaire d'une équipe que j'entraînais pour la faire gagner, et là ça va être l'inverse. Donc c'est un peu le cas de ce match-là aussi, également. Surtout, qu'est-ce que je peux en vouloir au Sénégal ? Rien, franchement rien, puisque mon départ, c'est un départ voulu, par rapport à un contexte bien précis, et non pas quelque chose que je reproche aux joueurs, à la fédération. Non, de ce côté-là, non. Pas du tout. Donc, il n'y a même pas un sentiment de revanche de ma part. Vous savez, il y a un moment qui est assez personnel que je vis, ce sont les hymnes. Puisque l'hymne du Mali, je le connais. L'hymne du Sénégal, je le connais. Et donc, c'est des sons que j'écoutais, et puis à l'époque, je les représentais, voilà.
Là, vous allez vous retenir pour ne pas chanter l'hymne sénégalais?
Non, mais si vous voulez, le lion rouge qui rugit, je le connais, voilà. Non, mais c'est des trucs incroyables, rien que ce genre de choses. Je me faisais le devoir d'apprendre les paroles de chaque hymne, voilà. Je ne suis pas surpris d'entendre la musique jouer l'hymne sénégalais.
Hier, on a eu Idrissa Gueye qui parlait de vous, qui disait que vous lui avez beaucoup apporté et que vous gardez encore contact. Forcément, il y aura une émotion quand même en croisant ces jours-là comme Idrissa Gueye, comme Sadio Mané.
Votre question est une question qui est un peu délicate, parce que là, vous me faites rentrer dans quelque chose qui m'est très cher et très personnel, c'est-à-dire que ces relations avec les joueurs, et Idrissa le dit, oui, ça me touche beaucoup, parce que j'estime que les gens pourront dire et redire tout ce qu'ils voudront. Je préfère entendre cela. Et ça me réconforte si j'en avais besoin, à travers tout ce qu'on a pu dire sur moi là-bas. Ça, Sadio qui me dit, avec les échanges, quand je fais site, coach, je vous attends Liverpool, etc. Bon, voilà, ça, c'est des trucs très personnels. Et quelque part, je me dis, même si j'entends des choses comme ça du Sénégal, je ne regrette pas. Je ne regrette pas mon passage au Sénégal. Et je suis le plus heureux des hommes quand je vois ce qu'ils arrivent à faire, ces joueurs-là. Parce qu'évidemment, ils ont du talent, je l'ai dit, c'est des joueurs bien. Ils ont du talent, ils sont dans des grands clubs. Et je suis très heureux et fier de les avoir dirigés.
Justement, dans ce groupe du Sénégal, il y a une bonne dizaine de joueurs qui ont joué avec vous, que vous avez appelés. Est-ce que, quelque part, vous revendiquez un certain héritage de ce groupe-là ?
Non, simplement que je ne m'étais pas trompé en construisant cette équipe-là. Souvenez-vous qu'il fallait pas construire, mais reconstruire une équipe après la CAN 2012, qui avait été difficile pour le Sénégal. Il fallait repartir, il a fallu faire des changements de joueurs, faire venir de nouveaux joueurs qui sont là maintenant et affirmer de jeunes joueurs. Je me dis, ben, voilà, la preuve s'ils sont là, c'est que quelque part, j'avais enclenché un processus pour cette équipe-là qui, avec le temps, pouvait porter ses fruits. Aliou l'a parfaitement compris et il a su parfaitement continuer à s'appuyer sur cette base pour construire son équipe.
Alain Giresse, le sélectionneur de la Tunisie qui poursuit ses retrouvailles avec ses anciennes équipes dans cette CAN. Après le Mali en poule, le Sénégal en demi, c'est ce dimanche à 16h temps universel.
Voilà, Sénégal, Tunisie donc à 16h temps universel. Un peu plus tard, Martin, aura lieu la deuxième demi-finale entre l'Algérie et le Nigeria. Une belle affiche que commentera donc notamment l'un de nos envoyés spéciaux lors de cette CAN, Christophe Jousset, qui après avoir interviewé Idrissa Ganagay, eh bien on le retrouve tout de suite au Caire. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Alors Christophe, l'Algérie est favorite de ce duel, même si elle a souvent eu du mal face au Nigeria.
Oui, c'est vrai que le Nigeria n'est pas un adversaire qui réussit à l'Algérie, hormis une victoire sur tapis vert dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ça fait 29 ans que les Algériens n'ont pas battu les Nigérians. C'était la fameuse finale de la CAN 1990, l'unique titre de champion d'Afrique des Verts. Alors ici, on reste sur la très belle impression dégagée par cette équipe d'Algérie depuis le coup d'envoi de la CAN, les 9 points du premier tour, et puis la Guinée en huitième de finale, et puis la Côte d'Ivoire en quart de finale. finale plus difficile, la victoire sur les Ivoiriens. Elle a d'ailleurs laissé des traces puisque le talentueux latéral Youssef Attal tombé sur l'épaule est forfait pour le reste de la CAN. Ce sera le seul absent dans l'effectif algérien. Pour le reste, le sélectionneur Jamel Belmadi a remarqué qu'avant un grand match comme une demi-finale, les joueurs récupèrent plus vite que d'habitude. Ils ont tout simplement une très forte envie d'être sur le terrain.
La préparation, elle a été surtout basée sur l'aspect de la récupération, puisqu'on a joué il y a 2 jours à peine. Quand on joue une demi-finale de Coupe d'Afrique, l'aspect de la récupération, surtout mentale et psychologique, va un peu plus vite que qu'en temps normal. Tout le monde a envie de jouer une demi-finale de CAN. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc je pense que l'ensemble de l'effectif, à part, comme vous avez dit, Youssef Attal, sera disponible pour ce match-là.
Jamel Belmadi au micro d'Antoine Grenier. Côté nigérian, la confiance est là également. Les Super Eagles ont aussi fait preuve de caractère pour arriver jusqu'ici, Christophe, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans le dernier carré de cette CAN.
Oui, quelques difficultés au premier tour, notamment la défaite contre Madagascar, mais depuis des Super Eagles solides en 8e contre le Cameroun, champion en titre, puis contre l'Afrique du Sud, qui venait de sortir quand même l'Égypte, pays organisateur. Les Nigérians ont des atouts, bien sûr, surtout au milieu et devant avec Odion Ighalo, mais leur sélectionneur Gernot Rohr, aujourd'hui en conférence de presse, a malicieusement insisté sur les qualités de l'adversaire qu'il trouve en gros progrès par rapport à la campagne de qualification de cette Coupe d'Afrique.
On connaît un peu cette équipe pour les avoir joués dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. On les a vus fragiles à l'époque. On les avait battus à Ouyo 3-1. Et ils ont fait beaucoup de fautes individuelles, des fautes défensives qui nous ont facilité la victoire. Après, on est allé pour le match retour, pour un match nul. Et ils étaient toujours assez fragiles. Et là, je vois une équipe d'Algérie solide, qui a un bon équilibre entre l'attaque et la défense, qui est toujours très physique et qui a progressé tactiquement. Donc ça va être un match beaucoup plus difficile que les 2 matchs que nous avons eus dans les éliminatoires.
L'Algérie a marqué 10 buts, c'est la meilleure attaque de la CAN. Le Nigeria marque un peu moins et surtout, il a pris 5 buts sur ses 3 derniers matchs. Des tendances, Cédric, que cette demi-finale va confirmer ou pas ce dimanche.
Eh bien, merci Christophe Jousset. Bonne soirée à vous. Ok, on vous retrouvera donc demain dimanche avec Antoine Grenier et Joseph-Antoine Bell au commentaire de ce Algérie-Nigeria. Le Nigeria dans le dernier carré, c'est une habitude ou presque, on en a déjà parlé tout à l'heure, des Super Eagles ragaillardis durant cette CAN après plusieurs années d'absence en phase finale, Martin.
Et oui, 6 ans que le Nigeria n'avait plus pris part à une CAN depuis le titre de 2013. Absent en 2015 et en 2017, les Super Eagles plane à nouveau en 2019, eux qui viennent de sortir le Cameroun et l'Afrique du Sud, grâce notamment à Odion Ighalo, meilleur buteur des qualifications et meilleur buteur de son équipe dans cette CAN, mais aussi grâce à Alex Iwobi, le milieu de terrain d'Arsenal, véritable chef d'orchestre de son équipe et chef d'escadron. Avec lui, les Super Eagles volent en rang serré, buteur en 8e, détonateur en quart. Le neveu de JJ Okocha prend de l'envergure après un mondial raté, de quoi le mettre de bonne humeur, et ça s'entend, comme a pu le constater Hugo Massonnier.
Bien sûr que je suis heureux, nous prenons du plaisir en Égypte, nous jouons pour que les Nigérians soient fiers de nous et pour l'instant c'est le cas. Nous sommes confiants et motivés avant ce match contre l'Algérie. Bien sûr, c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique, bien sûr Riyad Mahrez est l'un des meilleurs joueurs d'Afrique et même du monde, donc nous devrons le surveiller. Mais je suis également impatient de retrouver mon ancien coéquipier à Arsenal, Ismaël Benacer.
Comment jugez-vous la progression de votre équipe dans cette CAN?
Nous avons progressé pas à pas. Nous n'avions pas un groupe facile. Ça n'était pas simple de commencer par 2 victoires, mais nous l'avons fait. Ensuite, la défaite contre Madagascar nous a rappelé que tous les matchs seraient compliqués, quel que soit l'adversaire. Derrière, nous avons redoublé d'efforts et c'est ce qui nous a permis de battre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Les 2 rencontres ont été accrochées et nous allons tenter d'enchaîner contre l'Algérie.
Dans son premier but du Nigeria contre l'Afrique du Sud, vous réalisez un joli dribble. D'ailleurs, ça me rappelle quelqu'un. C'est Okocha qui vous l'a appris ?
Non, pas celui-là, mais il m'encourage à m'exprimer et à jouer mon football. Contre l'Afrique du Sud, j'ai simplement improvisé pour feinter le défenseur et trouver Chukwueze qui a été capable de marquer.
Sur un plan personnel, cette CAN est positive par rapport à la Coupe du Monde.
Bien sûr, j'étais un peu agacé de ne pas avoir beaucoup joué en Russie. Toute l'année, j'ai eu envie de montrer que j'avais ma place dans l'équipe. Et le meilleur moyen, c'est de tout donner en club comme en sélection. Et je pense avoir fait le nécessaire.
Comment le Nigeria a-t-il progressé depuis la Coupe du Monde ?
Entre la Coupe du Monde et la CAN, nous n'avons perdu qu'un seul match contre le Sénégal en amical. C'est la preuve que nous avons continué à bien travailler pour nous améliorer. De plus, même si notre équipe est jeune, nous sommes un certain nombre à jouer dans de très bons clubs. Nous sommes jeunes et en même temps matures.
Even though we're young, we're also mature at the same time.
Your club played a European Cup this year.
Avec Arsenal, vous venez de perdre une finale de Ligue Europa en marquant un but magnifique au passage. Comment cette expérience peut-elle aider le Nigeria?
C'était vraiment rageant de perdre ce match comme nous l'avons fait après l'avoir pourtant tant préparé. Je veux prendre ma revanche et gagner tous les titres possibles. La déception est encore vive et j'essaye d'en tirer une force pour Arsenal et le Nigeria.
Le Nigeria, un grand pays de football en Afrique, est-ce que ça ajoute une pression supplémentaire ?
Mais pas du tout, les Nigérians veulent nous voir jouer avec notre cœur, ils veulent nous voir tout donner. Et si tu donnes tout, ils seront fiers de toi et ils te soutiendront, quel que soit le résultat final.
Pour Gernot Rohr, le Nigeria n'a qu'une seule star, l'équipe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, à 100%, nous n'avons pas de grande vedette. Tous les joueurs sont sur un pied d'égalité, peu importe le parcours des uns et des autres. En attaque, par exemple, il n'y a pas Kigalo et moi. Armen Moussa et Chukwueze vont apporter énormément, eux aussi, et c'est tant mieux.
Vous avez vu passer beaucoup de grands attaquants au Arsenal. Quels sont vos modèles ?
Mon premier modèle, c'est un milieu de terrain qui n'est plus là, Jack Wilshere. Aujourd'hui, Aubameyang et Lacazette me parlent beaucoup. Ils me disent d'être plus calme quand je tire, et ça m'aide énormément. Et quand Thierry Henry entraîner les jeunes à Arsenal, nous discutions souvent. Il me disait que les attaquants doivent soigner leurs statistiques, qu'ils étaient jugés à travers les buts et les passes décisives. J'essaye de suivre ses conseils.
Voilà, des conseils et une leçon parfaitement récitée jusqu'ici par Alex Saïwobi. Reste à réussir le test algérien, ce sera demain en demi.
Eh bien merci Martin Guez, bonne soirée à vous, on se retrouve demain.
Bah oui.
Allez, on passe au cyclisme dans Mondial Sport. On se glisse dans la caravane du Tour de France. Le peloton et ses suiveurs ont effectué un gros tiers du parcours et certains prétendants à la victoire finale affichent de plus en plus leurs prétentions pour le classement général. L'étape de ce samedi a emmené les coureurs de Mâcon à Saint-Étienne, 200 km tout rond. À la préfecture de la Loire, où on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux. Bonsoir Christophe Diremzian.
Bonsoir Cédric.
Une huitième étape qui a donc souri au Belge Thomas De Gendt et plus encore à Julian Alaphilippe, redevenu maillot jaune.
Et oui, il était guetté sur cette étape pour sa capacité à chipper la tunique à l'italien Giulio Ciccone, qui n'avait que 6 secondes d'avance sur lui. Mission accomplie et au moment prévu pour le coureur de Koenigs Quickstep, qui a placé une accélération dans la montée de la côte de la Jaillère, dernière difficulté de la journée, à 12 km de l'arrivée, alors qu'à l'avant, Thomas De Gendt échappait, lui, dès le début de l'étape, tentait de filer vers la victoire. Alaphilippe a lancé le raid avec Thibaut Pinot, très beau numéro des deux français pour tenter de revenir sur le Belge, mais De Gendt a résisté jusqu'au bout. C'est la deuxième victoire sur le tour du coureur de la Lotto Soudal après son succès en 2016 sur l'étape du Chalet Reynard au Mont Ventoux. Interrogé à l'arrivée par Thomas de Saint-Léger, son coéquipier et compatriote Maxime Montfort ne tarit pas d'éloges sur lui. Il lui reprocherait même presque de ne pas avoir assez d'ambition sur la grande boucle.
Non, je ne vais pas dire que je suis surpris parce que il n'y a que lui qui peut faire des choses comme ça. Moi, j'ai toujours tendance à dire que Thomas, il a le moteur d'un gars du général qui fait pas le général. S'il se concentrait sur le général, d'ailleurs il a déjà prouvé en faisant podium au Giro, il pourrait faire top 10 de ce Tour de France, mais non, il fait pas le général et il est dans les échappées, donc voilà, il a une science de la course et en plus un gros moteur et une grosse envie. Comme on dit, c'est un putain de coureur. Hein.
Ah, Thomas De Gendt, vainqueur pour 6 secondes sur Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe, qui grâce au jeu des bonifications en temps pour le classement de la montagne, récupère le maillot jaune à l'italien Giulio Ciccone pour son plus grand plaisir partagé au micro de Richard Rifono.
Je suis super content, c'était une belle journée, hein, très difficile, on s'y attendait, ça a fait mal à tout le monde, aux échappés, au peloton. Il y a eu plusieurs fois des cassures, toujours assez nerveux. Je suis resté concentré toute la journée, je savais ce que j'avais à faire dans le final pour éventuellement récupérer le maillot. Et finalement, ça s'est passé à merveille. J'ai mis mon attaque là où je l'avais imaginé. En plus avec un beau numéro de la part de Thibaut Pinot qui m'a tout de suite suivi quand j'ai attaqué. Donc non, c'est difficile de faire mieux aujourd'hui. Je vais continuer de profiter. Demain c'est le 14 juillet, j'ai le maillot jaune sur les épaules, je vais me souvenir très longtemps.
Un Français en jaune pour la fête nationale, ça ravira évidemment les supporters sur le bord des routes. De plus en plus fans du numéro 1 mondial qui possède ce soir au classement général 23 secondes d'avance sur Ciccone et 53 secondes sur Thibaut Pinot.
Thibaut Pinot, Christophe, qui est l'autre grand gagnant de cette journée.
Ah oui, plein de panaches. Comme Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot fait vraiment la meilleure opération parmi les prétendants au sacre sur les Champs-Élysées, à commencer par Geraint Thomas, le Gallois qui a joué de malchance, victime d'une chute à 15 km de l'arrivée avec plusieurs équipiers Ineos dans un virage serré. Thomas a été ramené dans le peloton, mais il a quand même perdu du temps. Il a joué de malchance, les dégâts sont limités. Ça n'empêche pas le Britannique de marquer sa déception au micro de Carlos Pizarro.
Je suis frustré, c'était un moment clé de la course. Heureusement, Wout Poels a bien bossé. Il m'a aidé à revenir sur le groupe. Ensuite, évidemment, c'était compliqué de faire le sprint en haut de la bosse quand il y a eu l'attaque. C'est embêtant, frustrant, mais en même temps, je ne perds pas trop de temps. Il reste beaucoup d'étapes. Voilà, c'est la vie. Maintenant, Pinot et Alaphilippe seront à surveiller. Ils ont un bon punch, de bonnes jambes en ce moment. Ce sont les deux hommes à battre.
Voilà, Geraint Thomas qui va donc garder un œil sur Thibaut Pinot qui le devance de 19 secondes, c'est gérable alors qu'on n'a pas encore attaqué les Pyrénées. Alaphilippe, lui, précède le tenant du titre d'une minute 12, mais ce n'est pas un spécialiste de la haute montagne qui arrive dans quelques jours.
Alors avant ça, il y aura, Christophe, la 9e étape demain, longue de 170 km 500 entre Saint-Étienne et Briou, de la fameuse étape du 14 juillet où forcément les coureurs français auront toujours un peu la pression.
Oui, alors évidemment, Alaphilippe en jaune, ça en enlève beaucoup de cette pression, mais lever les bras sur la ligne d'arrivée le 14 juillet, eh bien, la symbolique reste forte. Le dernier à l'avoir fait, c'est Warren Barguil, il y a 2 ans, en montagne à Foix. C'est un pur grimpeur. Cette fois, le mur d'Aurec sur Loire, classé première catégorie, montée courte, mais raide, hein, quand même, 11% de moyenne. Le profil accidenté dans le Puy-de-Dôme paraît tout de même plus propice à une nouvelle escapade de baroudeur. On verra ça demain à partir de 11h25, temps universel, arrivée prévue à Brioude, aux alentours de 15h30, temps universel.
Eh bien, merci Christophe Diremzon. On vous retrouve d'ailleurs dans les journaux de RFI demain.
Absolument.
Alors allez vous reposer. Bonne soirée à vous, Christophe Diremzon. Il reste quelques minutes dans Mondial Sport pour parler de tennis et du rêve de Serena Williams qui a pris fin aujourd'hui à Wimbledon. L'Américaine avait l'occasion d'égaler le record de 24 grands chelems gagnés par Margaret Court. C'était en cas de triomphe sur le gazon londonien, mais son compteur est resté bloqué à 23 après sa défaite sèche en finale 6-2-6-2 face à la Roumaine Simona Halep. Balayée par son adversaire en moins d'une heure de jeu, Williams a bien du mal à encaisser cette défaite, d'autant qu'elle s'incline pour la 3e fois consécutive en finale.
I don't know, she just played great.
Je ne sais pas, elle a juste très bien joué. Je ne crois pas que ce soit une surprise pour qui que ce soit de bien jouer contre moi. J'ai tenté des choses différentes. Rien ne m'a vraiment aidé aujourd'hui. J'ai aussi fait beaucoup trop d'erreurs sur des choses que j'avais travaillées. Comment renverser la tendance après ces 3 finales perdues? Je ne sais pas. J'ai juste à trouver un moyen de gagner à nouveau en finale, c'est tout. Peut-être que jouer des finales hors grand chelem pourrait m'aider, juste pour retrouver les bonnes sensations au moment d'aborder ces matchs-là en grand chelem.
Serena Williams qui va maintenant se concentrer sur l'US Open en fin de saison pour tenter de décrocher ce fameux 24e trophée majeur. À noter en double messieurs la défaite du duo français Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin qui a perdu en 5h et 5-7 face à Juan Sebastian Cabal et Robert Farah. 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 et 6-3. Incroyable finale. Demain, affiche de rêve en finale de ce tournoi de Wimbledon entre Sa Majesté Roger Federer et le numéro 1 mondial Novak Djokovic. L'inoxydable Federer, 38 ans, pourrait remporter son 21e titre du Grand Chelem, record absolu. Voilà, Mondial Sport, c'est terminé pour ce soir. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, la page Facebook notamment, celle de Twitter ou d'Instagram. Merci à Fabrice Violet qui m'a aidé à préparer cette émission. Ne manquez pas demain, Sénégal-Tunisie à 16h temps universel, Algérie-Nigeria à 19h TU. On se retrouve normalement après ces matchs en cas de non-prolongation. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur RFI.
FDF.